RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Alors je pourrais dire me revoilà, me revoilà, me revoilà. Oui, c'est moi. Bon, vous savez, là, le mec qui vous dit toujours mêliez-vous de ce qui vous regarde. Ouais. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, après un mois de silence, obligatoire, de silence électoral, je pourrais dire, je vous autorise à regarder ce que vous voulez. Hein ? Ben oui, puisque je dis toujours mêliez-vous de ce qui vous regarde. Mais là, vous avez le droit de regarder. Bon, alors, la radio, c'est un peu difficile de la regarder. Mais pensez, c'est bien simple, réfléchissez dans votre tête. J'ai une sale gueule, j'ai les cheveux blancs, et je commence à les perdre, j'ai un nez rouge, j'ai une barbe blanche. Hein. Parfois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par an, je fais le Père Noël, voilà. Sinon, en dehors de ça, ben, je suis un poète, voilà. Le président d'un club de poésie qui s'appelle l'Hydropathe depuis 25 ans. Parce que personne dans ce club ne veut prendre ma place, parce que je suis le seul à savoir faire les frites belges. Oui, vous vous rendez compte ? Voilà, bon. Alors c'est le grand retour. Voilà, oui, on va appeler ça comme ça. Et on va commencer par un poème d'un des membres du club de poésie des Hydropathes, qui s'appelle Jean-Pierre Doche, qui d'ailleurs en ce moment, c'est un Parisien, mais en ce moment il est à Saint-Astier. Il a une maison à Saint-Astier. Et il a fait un poème sur le fameux Gaston Coutet, qui était le poète de la Beauce. Hein, d'ailleurs, j'ai plusieurs bouquins de Gaston Coutet. Il a écrit beaucoup de poèmes. Alors, avec cet accent de là-bas, hein, alors ça, c'est difficile à déchiffrer, hein, parce que c'est pire que du vieux français, hein, l'accent de la Beauce. Hein. Ah oui. Et donc, ça s'appelle Gaston Coutet, bien sûr. Poète Berrichon. T'as ta plaque à Paname. Mais qui te connaît encore aujourd'hui ? Beaugency, Orléans, Ingré, t'ont pourtant bien connu. Et en 98-2800, tu montes à Paris. Jean Rictus te pousse au cabaret. Alors Jean Rictus était aussi un hydropathe de l'époque. Hein. Tu n'écoutes que ton cœur et affectionnes les gueux. Tu ouvres la truie qui file et gueule dans la guerre sociale. Tu tapais tellement fort que tu fus poursuivi, même après ta mort, mort de poème intense, de bohème intense, à 32 ans, tu resteras le gars qui a mal tourné. Ça, c'était une de ses poèmes, le gars qui a mal tourné. Et comme a dit ton vieux sur la tombe, t'as voulu venir à Paris, eh ben, t'es content, t'y es, t'y voilà. Ça fut écrit en 2005, voilà. Et Jean-Pierre Doche, en ce moment, là, il est venu me voir le week-end dernier, et il sort un nouvel album de poésie, là, et c'est moi qui lui fais sa mise en page, voilà. Hein. Parce que, bon, vous savez, j'ai pas perdu mon métier de graphiste. Hein. On est graphiste de mère en fille, pardon, de père en fils, voilà. Et on garde cette... Alors, après, il faut faire attention à la technologie qui évolue, quand même. Hein. Parce que vous allez voir, un jour, on n'y aura plus besoin d'ordinateur. C'est votre cerveau qui sera déjà complètement branché sur le papier blanc, et ça s'imprimera tout seul en fonction de ce que vous pensez. Eh oui, alors ça ne s'appelle pas encore l'intelligence artificielle. Là, ça s'appellera l'intelligence un peu con-con. Voilà. Hein. Alors, on va continuer. Bon, Jean-Pierre Doche, il est bien gentil, mais bon, on ne va pas toujours parler de lui. Hein. Bah, vous connaissez Prévert ? Non, vous ne connaissez pas Prévert ? Bah, qu'est-ce que vous avez loupé, alors hein. Vous allez vous rattraper, vous allez voir. Alors, il a écrit un poème qui s'appelle « La batteuse ». Hein. La batteuse de quoi, on ne sait pas encore. Hein. Oh, moi, j'aurais bien dit « La batteuse d'homme hein, », pourquoi pas. Non, ben, c'est pas ça. La batteuse. La batteuse est arrivée. Mais la batteuse est repartie. Ils ont battu le tambour, ils ont battu les tapis, ils ont tordu le linge, ils l'ont pendu, ils l'ont repassé. Ils ont fouetté la crème et ils l'ont renversé. Ils ont fouetté un peu leur enfant aussi. Ils ont sonné les cloches, ils ont égorgé le cochon, ils ont grillé le café, ils ont fendu le bois, ils ont cassé les œufs, ils ont fait sauter le veau avec des petits pois, ils ont flambé l'omelette au rhum, ils ont découpé la dinde, ils ont tordu le cou au poulet, Ils ont écorché les lapins. Ouais. Ils ont éventré les barriques. Ils ont noyé leur chagrin dans le vin. Ils ont claqué les portes et les fesses des femmes. Ils se sont donné un coup de main. Ils se sont rendus des coups de pied. Ils ont basculé la table. Ils ont arraché la nappe. Ils ont poussé la romance. Ils se sont étranglés, étouffés, tordus de rire. Ils ont brisé une carafe d'eau frappée. Ils ont renversé la crème renversée. Ils ont pincé les filles. Ils les ont culbutées dans le fossé. Ils ont mordu la poussière. Ils ont battu la campagne. Ils ont tapé des pieds. Tapé des pieds, tapé des mains. Ils ont crié. Et ils ont hurlé. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Ils ont dansé autour des granges où le blé était enfermé. Où le blé était enfermé, moulu, fourbu, vaincu, battu. Voilà. Allez, tiens, Rimbaud. Est-ce que tu Rimbaud ? Hein ? Alors, tiens, matinée d'ivresse. Oh. Il dit pas quand est-ce qu'il l'a écrit. Mais enfin, je peux vous certifier qu'il l'a écrit de son vivant. Ça, j'en suis certain. Hein. Bon. Parce qu'il est mort jeune. Hein. Matinée d'ivresse. Oh mon bien, oh mon beau, fanfare atroce, où je ne trébuche point, chevalet féerique, hurrah pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants. Cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand la fanfare tournant nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. Oh, maintenant, nous si dignes de ces tortures, rassemblons fermement cette promesse surhumaine faite à nos corps et à notre âme. Créez cette promesse, cette démence, l'élégance, la science, la violence. On nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts, et cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité, cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacré, voyez-vous, par le souvenir de cette veille, cela nous commençait par toute la roustreté. Attendez, rustrerie. Voilà. Oh, ils utilisaient ces mots à l'époque, hein. Incroyable. Et ils ne connaissaient pas bien la langue française maintenant. Hein. Ah non. Non, Rimbaud particulièrement, il avait du mal à s'habituer à la langue française d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Hein. Et alors, où est-ce que j'en étais ? Attendez, je suis obligé de faire une minute de silence pour retrouver ma phrase. Parce que là, il a écrit comme, vous savez... comme tout le monde, là, comme les romans dans les romans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point à la ligne, hop, ça retourne, tout ça, non, c'est tout d'un seul coup, là, plap, plap, on coupe les mots, on fait quoi, des conneries comme maintenant, hein. Allez, voilà, rire des enfants, discrétion des soeurs, austérité vierge, hors de figure et des objets d'ici, sacré, voyez-vous, dans le souvenir de cette veille, cela commence par toute cette rustrerie, voilà, voici... que cela finit par des anges de flamme et de glace. De glace. Petite veille d'ivresse sainte, quand ce ne serait-ce que pour le masque dont tu nous as gratifié. Nous t'affirmons, méthode, nous n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges, nous avons foi au poison, nous savons donner notre vie tout entière pour les jours. Voici le temps des assassins. Voilà, oh. Décidément, il y a des assassins dans tous les poèmes, hein, chez tous les poètes. Hein. Ouais. Alors, même moi, par exemple, je pourrais très bien écrire sur ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Iran, hein, ce qui se passe au Venezuela, ce qui va peut-être se passer bientôt à Cuba, hein, et peut-être même en France. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte ? Une bombe nucléaire sur Périgueux ? Ça serait du jamais vu. Ah ouais, jamais vu. Oh, on serait irradiés. Hein, oh. Alors le mot irradié, il peut avoir quelque chose d'intéressant. Hein. Oh, je suis irradié par la joie, par le rire, par la beauté, voilà. Mais ça ne sera pas ça, vous inquiétez pas, ça ne sera pas ça. Hein. Ah non, vous en faites pas de... Je vous dis ça, c'est pour que vous ne soyez pas surpris. Hein. Bon. Bon, allez, arrête tes conneries, Momo. Ouais, parce que figurez-vous qu'il y en a qui m'appellent Momo. Ouais, bon. Alors, s'il y a une dame qui aimerait correspondre avec moi, je l'autoriserais à m'appeler Momo, par exemple, à l'antenne. Hein. Momo, j'ai envie de te parler. Alors, et je peux venir manger des frites belges chez toi? Alors, je dirais oui. D'accord, mais t'amènes le sel. Hein, quand même. Bon. Je vais pas tout mettre, moi, dans mes... Hein. Bon, et si on écoutait Césaria Évora dans Nutri Linda?
Olá, sabem que a minha ninha que se curpi nutridinha trai dele cabo espiar para mais e mais cabo soltar. Olá, também que a minha ninha se curpi nutridinha trai dele cabo espiar para mais e mais cabo soltar. O que ele se via ele pescar cabo espartinho e sal para mais a linternidade agora é só maternidade. O que ele se via ele pescar cabos faltinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. Este menininho de hoje em dia, cada cinco e roubadia, pode fazer escoladeira, este é de mal para brincadeira. Este menininho de hoje em dia, cada cinco e roubadia, pode fazer escoladeira, este é de mal para brincadeira. O que ele sentia ele pescar, cabos faltinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele pescar, cabos faltinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade. Olá também que a menininha que se curpi nutridinha trai dele cabo espiar para mãe sem mãe cabo soltar. Olá também que a menininha que se curpi nutridinha trai dele cabo espiar para mãe sem mãe cabo soltar. O que ele sentia ele pescar cabo estortinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele pescar cabos faltinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta de mal que na brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta de mal que na brincadeira. O que ele sentia ele pescar, cabos faltinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele pescar, cabos faltinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade.
Bon, alors vous avez vu, hein. Alors, elle habite, enfin elle habitait, parce que je pense qu'elle est plus vivante, dans une île qui s'appelait le Cap Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Alors là, j'ai un livre qui s'appelle, oui, malheureusement, il s'appelle Poésie. Hein, hein. Sinon, il serait pas là, ce livre-là, il serait pas sur ma table. Hein. Et ça s'appelle Rion avec les poètes, voilà. Et alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Ber, B-E-R, comme Ber. Il a écrit un poème qui s'appelle Art poétique. En 1977. Il y a des poèmes que j'écris. Il y a des poèmes que j'écris de la main droite. D'autres que j'écris parfois de la main gauche, selon l'inspiration. Il y en a d'autres que je n'écris pas, mais que je le pense et que je le sens. Alors figurez-vous, ça m'arrive la nuit, moi. Des fois, j'ai un poème dans la tête, et je me dis, bon, allez, t'inquiète pas. Bon, tu vas t'en rappeler demain matin. Eh ben, merde, je m'en souviens plus. Dans le coup, j'ai des poèmes qui ne seront jamais publiés, et qui personne ne saura qu'ils existaient, même pas moi. Si, moi, je savais qu'ils existaient, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Voilà. Alors, Je me suis dit, tu vas te mettre un petit enregistreur sur le bord de ta table de nuit. La première fois que j'essaie, putain, il n'y avait pas de pile dedans. Donc j'ai enregistré du vent, de l'air, voilà. Et bah, j'ai encore perdu un poème. Alors, je pense que je vais quand même essayer de mettre des piles dedans. Hein. Ça serait quand même dommage de perdre les poèmes de nuit, parce que c'est les plus beaux, les poèmes de nuit. C'est les poèmes beaucoup plus beaux que ceux de jour. Ah oui, je peux vous le dire. Bon, allez, on continue. Et bon, et que je sens. Mais tout bien réfléchi, ce ne sont pas des poèmes. Si je les pense, c'est donc que je suis. Si je les sens, c'est qu'ils ont une odeur. Une odeur ne fait pas un poème, c'est bien connu. Alors moi, je dirais le contraire. Une odeur, ça peut faire un poème. Ça dépend quelle est cette odeur. Par exemple, si c'est l'odeur d'une choucroute au vin blanc, hein, au Riesling, par exemple, vous sentez ce Riesling, bah, ça devient un poème. Hein. Bon, je vais essayer de le faire cette nuit. Essayer de me rappeler demain matin quand même. Hein. Bon, je vais aller acheter des piles là, pour mettre dans mon enregistreur quand même. Hein. Ou alors je vais en demander un à la radio, ils en ont plein des enregistreurs. Hein. Bon, en plus vachement perfectionnés. Au point qu'ils enregistrent, et ils enregistrent même les odeurs. Vous vous rendez compte? Par exemple, l'autre jour, il y en a un qui l'enregistrait, il se met à péter. Eh bien, il y avait odeur sur son enregistrement. Incroyable, quand même, hein? Qu'est-ce qu'on fait plus maintenant? Qu'est-ce que c'est moderne? Oh, incroyable! Oh là là! J'aime bien ce modernisme, tu vois, où tu peux sentir les odeurs. Hein. Allez, on continue. Alors, Claude Mercutio. C'était un monsieur que j'ai rencontré à un salon du livre, une soirée poésie plutôt, à Saint-Albert. Alors il a fait un poème en hommage à Jacques Prévert. Et ce poème s'appelle « L'étranger ». Bon, après j'ai plus besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien. Et ce fut écrit le 3 octobre 1992 à 12h55. Putain, il me copie lui. Oh, quoique non, en 92, je ne faisais pas de poésie, moi, à l'époque, non. Bon, je ne faisais pas de poésie. Donc je lui laisse le privilège de mettre la date comme moi. Il est descendu du train, il est sorti de la gare, a vainement interrogé les visages revêches, des maisons aux paupières closes de volets. Il a arpenté la grande rue et fait sonner ses sommeils sur le pavé sonore, réprobateur, hostile. Ils l'ont couché en joue. Sous les tirs croisés de leurs yeux, revolvers, à l'abri des persiennes sournoises. Il est entré à l'auberge et les rumeurs se sont tues. Puis, il a claqué le silence, cravache énorme, terrible, assourdissante, pour faire taire cette absence, cette angoisse des profondeurs, sur une boule dans la gorge, avec une boule dans la gorge. Il a demandé un café, laborieusement, puis il a posé la question avec une voix d'ailleurs, scruté par des regards baïonnettes. Il a remercié faiblement, payé, sorti, avec un bout de bras, lèche croissance, valise, lourde de tous ses échecs. Il s'est arrêté devant la façade lépreuse, criant sa misère au vent aigre, giflé de pluie, épelé lentement le mot inscrit sur le fronton écaillé. Et je suis entré à l'hôtel des étrangers. Ah, c'est pas mal. Et alors ça, c'est adressé à tous les exclus de la terre. À Lyon, ça fait du monde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir le lire. Hein. Oh, incroyable. Hein. Mais bon, c'est bien. Bon. Alors, tiens, figurez-vous que j'ai un livre, c'est que de la poésie sur les arbres. Hein. C'est chouette. Hein. J'adore, parce que moi, j'en ai fait aussi des poèmes sur les arbres. Hein. Et alors, il y a un qui est vachement connu, hein, bon, pour les gens qui aiment la poésie, c'est Émile Verhaeren. Il n'y a pas de titre. Bon, il n'y a pas un titre, on sait que c'est sur les arbres. Hein. Bon. Je le touchais avec mes doigts, avec mes mains. Je le sentais bouger jusqu'au fond de la terre. D'après un mouvement énorme et surhumain, et j'appuyais sur lui ma poitrine brutale. Avec un tel amour, une telle ferveur, que son rythme profond et sa force totale passaient en moi et pénétraient jusqu'à mon cœur. Alors, j'ai mêlé à sa belle vie ample. Je me sentais puissant comme un de ses rameaux. Il se plantait dans la splendeur comme un exemple. Je mets plus ardemment le sol, les bois, les eaux. La plaine immense et nue, où les nuages passent, j'étais armé de fermeté contre le sort. Mes bras, aurait voulu tenir en eux l'espace. Mes muscles et mes nerfs rendaient léger mon corps. Et je criais, la force est sainte, il faut que l'homme imprime son empreinte. Tranquillement, sur les dessins hardis, elle est celle qui tient les clés du paradis et dont le large poing en fait tourner les portes. Et je baisais le tronc noueux éperdument, et quand le soir se détachait du firmament, je me perdais dans la campagne morte, marchant droit devant moi, vers n'importe où, avec les cris jaillis du fond de mon cœur fou. C'est pas beau, ça. Oh, j'aurais voulu... Alors, je vais essayer ce soir, moi. Parce qu'il y a des bois chez moi, hein, il y a des bois. Et j'ai beaucoup souffert la semaine dernière, parce que mon voisin, il a abattu un chêne. Bon, faut dire qu'il était mort, hein. Mais un chêne mort, ça vient encore un peu quelque part, hein. Bon. Un chêne mort n'est jamais vraiment mort, hein. Bon, il perd ses feuilles, il les renouvelle pas au printemps, mais son bois est là, ses écorces sont là. En plus, dedans, il y a plein de parasites, des insectes qui nourrissent les oiseaux, hein. Des fois même des petits vers, hein. Alors, c'est pas des petits vers de vin, non, non, c'est pas des petits vers de vin, c'est des petits vers, voilà, des lombriques, ouais. Hein. Alors, lombriques, on dit des fois, t'es lombrique. Là, je n'ai pas compris pourquoi un lombrique, et puis on te dit t'es lombrique. Hein. Bon. Alors, moi, je connais des briques longues, mais un lombrique, non, je ne connais pas. Hein. Bon. Bon, allez, tiens pour la peine. Myriam Makeba, patati, patata, patato, patatou. Et patati et patata, la meilleure hausse, c'est la Badoit. Oh, j'ai fait de la pub. Merde, on n'a pas le droit. Une radio libre, on n'a pas le droit. Hein. Ou alors, il faut payer je ne sais plus quoi, combien... Il faut déjà payer on appelle ça un professionnel, un commercial. Ouais. Alors là, j'ai repris mon livre sur les arbres. Je suis encore tombé sur Jacques Prévert. Il a vraiment écrit sur tout, ce mec. Hein. Bon, il n'a jamais écrit sur Maurice Méliès. Bon, ça... Bon, c'est un peu ce que je lui reproche, d'ailleurs. C'est un peu ce que je lui reproche. Alors, il n'y a pas de titre, mais là, il a mis en première main la phrase d'un jardinier chinois. Les voyages de graines forment la genèse des arbres. Mais il est con, ce mec, ça, on le savait. Bon, allez. Et les enfants des arbres se promènent dans les vents alizés et leurs nourrices leur racontent des histoires de croques migraines et de très mauvaises fées et d'ogresses végétariennes et de bûcherons noirs et sanglants et de charbonniers bons vivants. Arias des bois et des forêts, écho du bois de mine, malheur de beurinage, chanson d'échafaudage, chanson des rugis des bois, bois des mâts de cocagne et des manches de drapeaux, bois des carcans et des bagnes, bois des échafauds, bois des potences, des estrades, des bastonnades et des cages à oiseaux, bois de justice et de guitare à sérénade et de cadre à tabou. Bois d'arbres dont on fait les flûtes. Oh, c'est connu ça. Des flûtes dont on fait des chansons, bois d'arbres, et la science du bien et du mal, appelée aussi arbre de transmission des mauvaises pensées. Arias, vieille branche. Abracadabra, volée de bois vert, guignol du fruit défendu. Voilà, c'est beau, hein. Oh. Moi, je mangerai tous les matins du Prévert, hein. Ah oui, ouais. Bon, je mettrai un petit peu de sucre quand même, hein. Voilà, bon. Là-dessus, je vais être obligé de vous dire au revoir. Et tout ça parce qu'on vient de me téléphoner que les frites belges sont en train de brûler. Il faut que je me dépêche. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Et non, d'abord toutes. Et tous. Voilà. Allez, bisous.